Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir d'être avec vous comme chaque lundi. Alors on avait marqué un petit week-end de repos la semaine dernière pour le week-end de Pâques, mais on va revenir avec encore tout plein d'actu. Alors comme on aime tous les sports, eh bien ce soir on va commencer par parler moto avec de très nombreux invités. Ensuite on reviendra sur le tournoi des 4 nations de handball disputé à Meudon il y a 15 jours. On aura un gros point sport de la quinzaine avec notre ami Alexandre. Et puis naturellement le point foot aussi de la quinzaine avec Stéphane Dedenclos. Je vais saluer donc celles et ceux qui m'entourent. On va commencer avec Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous nos invités.
Voilà, ouais. Tu n'avais pas été très bavarde, circonstances oblige, il y a 15 jours, mais là tu vas te rattraper. Hein.
Ah oui.
Hein, tu vas tout nous dire sur ce qui s'est passé donc, sur le handball à Meudon il y a 15 jours. Je vais saluer Alexandre qui lui, bah, comme d'habitude, il n'a rien raté des principaux événements sportifs, j'allais dire de la semaine, même de la quinzaine. Salut Alexandre.
Salut Philippe, bonsoir à tous.
Ça va, t'es en forme ?
Une grosse actu.
Bah oui, sur la quinzaine, hein. Ouais.
Ouais, non,
hein.
on est en forme. Ça fait très plaisir bien de revenir.
Voilà. Allez, et puis on va donc, comme on l'a dit, commencer par les motos avec nos invités. Et il vient d'une ville que je connais bien, une ville estonienne. C'est Fabrice Tillier, président de la Ligue Île-de-France Moto. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir à tous.
Ouais. Merci en tout cas. Depuis combien de temps dans la moto ?
Une bonne vingtaine d'années maintenant, ouais. Malheureusement.
Alors, comment on arrive président ? Comment un petit peu porté par les circonstances.
Oui, toujours.
Comme
toujours,
on dit à la présidence de la République.
Mais pour rien vous cacher, il n'y a pas eu de bataille. Hein.
Oui.
Vous savez, comme malheureusement, dans le milieu associatif, les vocations se font rares. Et voilà, disons que ça faisait une vingtaine d'années que je collaborais à la Ligue régionale motocycliste. Mmh. Et ben, quand le moment est venu des élections de 2024 et que les vocations ne se bousculaient pas, il m'a semblé que j'avais quelque chose à apporter au sport moto et donc je me suis présenté.
Oui. Tâche exaltante, passionnante.
Tout à fait, au quotidien, y compris le week-end, parce que les activités sportives de plein air, c'est principalement le week-end. Donc, on prépare toutes les activités la semaine. Et puis, le week-end, on vient voir, contrôler que les choses se passent comme on a souhaité les préparer.
Très bien. Un autre président à vos côtés, donc Jean Lescure, qui lui est président du comité départemental olympique et sportif sur le 75. Bonsoir Jean, je vais lui demander de s'approcher un peu plus près du micro, ça sera mieux. Voilà, bonsoir Jean.
Bonsoir à tous.
Oui, ça va. Vous, depuis combien de temps dans la moto ?
Alors moi, une trentaine d'années. J'ai démarré par la moto tout simplement.
Oui, d'accord, ok. Là aussi, même question, comment on en arrive à devenir président ?
C'est Fabrice qui m'a mis le pied à l'étrier en proposant de devenir le président du comité départemental moto de Paris. Du coup, il fallait être président d'un club parisien, donc j'ai créé le club et je suis devenu président du comité départemental.
Très bien, le président parisien, il y en a un, donc c'est Bertrand Musilier, il est président d'un club dans le 5e arrondissement de Paris.
Bonsoir, oui,
moi
j'ai créé mon motoclub il y a un peu moins de 4 mois maintenant, qui s'appelle le Green Motoclub.
C'est près du Panthéon, non ?
C'est tout à fait, c'est à côté de Saint-Séverin, en fait.
Je connais bien.
Le motoclub est domicilié chez moi pour l'instant. Donc,
d'accord. Oui.
Mais moi, je suis dans la moto depuis plus de 30 ans maintenant. J'étais journaliste pendant très longtemps.
Donc, c'est un confrère qu'on accueille, alors ?
Voilà.
Ouais.
Et puis, j'ai fait différentes choses, différentes organisations. Et j'organise des événements pour les trails maintenant. Et on voulait lancer une première course, une endurance tout-terrain, exclusivement réservée au trail. Et pour cela, on a dû créer notre motoclub. Donc, C'est pour ça que le motoclub est tout frais.
Et, bah c'est
très et comme
bien.
J'ai créé, bah je suis président.
C'est très bien, bah c'est très bien. On va justement parler peut-être des difficultés d'être président d'un club de moto sur Paris. On aura l'occasion d'en reparler.
J'ai pas beaucoup d'expérience, moi, pour l'instant.
Bon, on verra ça. Allez, avec aussi un autre intervenant, c'est Jean-Paul Fritz, qui va aussi s'approcher du micro. Bonsoir,
oui, bonsoir Jean-Paul. Aux auditeurs.
Ouais, vous avez une piste. Vous dirigez une piste.
Oui, alors nous, on a un motoclub piste. Oui. Donc pour rouler sur circuit, mais on n'a pas notre piston,
d'accord.
On les circuits et puis on fait.
C'est-à-dire qu'on apprend les jeunes, les gens à rouler.
Ouais, alors on a des marshals et puis là on met en place un moniteur pour donner des conseils pour que quand on vienne rouler une première fois avec sa moto, on parte sur de bonnes bases et puis qu'on passe un bon moment.
D'accord. Très bien. Bah, ça faut aussi partir de la moto, donc on va donc avoir l'occasion de revenir là-dessus. Question bateau, est-ce que votre sport marche bien, fonctionne bien en Île-de-France? Est-ce que voilà?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de réussites et puis, comme toujours, on a un certain nombre de difficultés aussi. Il n'échapperait à personne que dans une région particulièrement urbanisée, la problématique des équipements sportifs se pose un petit peu plus, encore un petit peu plus que pour d'autres sports. C'est la difficulté majeure qu'on rencontre aujourd'hui, hein, c'est de trouver... trouver le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt de maintenir les équipements existants. On n'a pas tout à fait renoncé à en créer de nouveaux, mais il y a tellement de difficultés que le foncier est rare, les autorisations sont difficiles à obtenir. Et puis il n'a échappé à personne également que ce siècle est celui de l'individualisme et la tolérance aux activités qui peuvent causer quelques nuisances, puisqu'il faut quand même bien le dire, la moto...
On va en parler, mais est-ce que... Allez, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est tendance aujourd'hui? Parce qu'on dit aujourd'hui, oui, le moteur électrique, moins de bruit, moins de pollution.
La moto électrique, c'est une voie. Est-ce que c'est vraiment une voie de développement? Ça, on n'en sait rien. Ouais. Mais c'est une voie sur laquelle les professionnels travaillent, la fédération également.
Ah oui, quand même.
On développe des séries sportives spécifiques pour les motos électriques. Dans les disciplines où il n'y a pas de section spécifique, les véhicules électriques sont admis avec certaines catégories et certaines manières de les catégoriser. Donc. Mais la porte est ouverte aux véhicules électriques. Ça se développe. Je ne vais pas vous dire que ça se développe grandement parce que ce n'est pas le cas. Mais ça existe et ça reste une voie possible. Honnêtement, le tout électrique ne me paraît pas pour demain.
Oui.
D'autant que... Je le disais tout à l'heure, c'est une de nos difficultés, mais le bruit fait également partie
tous les amoureux des sports mécaniques disent que c'est le bruit qui les fait rêver. Quoi.
La fédération n'aime pas tellement qu'on parle de bruit, elle préfère parler d'émissions sonores, mais vous l'avez compris, ça fait partie du sport. Alors après, l'émission sonore, ça ne veut pas forcément dire à forte intensité, hein, mm-hmm. C'est-à-dire qu'avoir un moteur... dont on sent les vibrations et il y a ce côté vivant quand même hein, qui rentre de manière importante dans le plaisir qu'un pilote peut rencontrer à piloter sa moto. On n'est pas obligé d'avoir une machine qui fait 140 décibels, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est le travail que la fédération a engagé depuis plusieurs années et a bien du mal d'ailleurs à porter parce que la diminution des émissions sonores, ça passe fatalement par la contribution des fabricants de machines et de matériel. Or, il se trouve qu'au niveau international, aux États-Unis, mais dans toutes les grandes nations de motocyclisme, le niveau des émissions sonores n'est pas vraiment un sujet. La France est un petit peu en avance, sur ce sujet-là. Et il se trouve que depuis l'année dernière, la Fédération internationale qui fait les règles des grandes épreuves, des grands rendez-vous internationaux, a emboîté le pas à la Fédération et a pris la décision de progressivement diminuer l'intensité des émissions sonores admises lors des grands rendez-vous. Et on prend la bonne direction, je pense, sur ce sujet-là. Ça reste un vrai sujet pour tout le monde, il faut bien le dire, le bruit du moteur fait partie du plaisir à la fois les pilotes et le public, parce que imaginez un circuit sur lequel les motos ne passent qu'en émettant un sifflement qui caractérise les motos électriques, évidemment, ça parle moins.
Et quand on garde justement cette authenticité, je me demandais, est-ce qu'on l'esprit moto peut-être a évolué depuis ces 10, 15, 20 dernières années? Est-ce qu'il y a, vous constatez dans le public que vous recevez, des tendances assez nouvelles, des...
Oui, alors comme...
Qu'est-ce qui finalement rassemble tout le monde aussi peut-être, comme deuxième question?
Alors, pour répondre à la première, la population des motocyclistes, alors moi je parle principalement des sportifs, hein, puisque ce qui se passe sur la voie publique,
on est là pour ça.
C'est moins mon,
pour parler sport,
c'est moins mon sujet. Mais c'est lié quelque part, parce que j'allais vous dire, la société du sport moto évolue comme la société tout court. Et donc, oui, les comportements évoluent. On est plus dans l'image de soi, dans l'image qu'on peut donner de soi aux autres. Là où il y a encore une vingtaine d'années, on avait un public qui était principalement constitué de passionnés, de gars qui prenaient plaisir à bricoler, enfin à préparer leur matériel dans leur garage, et puis qui n'hésitaient pas à faire beaucoup de kilomètres, à se lever de bonne heure et à se coucher tard. Aujourd'hui, on est beaucoup moins, voire plus du tout, dans certaines disciplines, dans cette mouvance-là. On est plus à faire attention à... au logo qui sont sur sa moto, avoir un casque propre, des bottes rutilantes. On est plus dans la recherche de l'image de soi, mais ça, encore une fois, c'est comme dans le reste de la société, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, alors votre deuxième question précisément, c'était...
Alors ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui rassemble finalement?
Alors aujourd'hui, ce qui continue à rassembler, ça, pour le coup, ça n'a pas changé, c'est à la fois le goût de la performance collective, parce que même si c'est un sport individuel, ce sont des courses où il y a une adversité, hein, on court les uns contre les autres pour l'essentiel de nos disciplines. Et donc ça, il y a le côté collectif, c'est un week-end de course, il faut voir ce que c'est, hein, c'est une grande fête en réalité. Mmh. Et donc on continue à attirer les jeunes publics et le public tout court autour de ces valeurs-là. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui reste aussi attaché au sport moto, c'est la notion de dépassement de soi, de prise de risque. Alors, contrôlé, hein, évidemment. Mais bon, dès lors qu'on est dans la pratique de la compétition sportive, y a une part de risque dans le sport moto comme dans d'autres sports.
Alors, justement, est-ce que c'est un sport qui fait peur pour des parents, par exemple, un jeune ou une jeune qui voudrait s'inscrire à ce sport? Est-ce qu'il y a cette réticence que c'est quand même un sport à risque?
Oui, il y a une réticence, et il faut qu'il y en ait une, à la fois de la part des parents, parce que c'est eux qui finalement sont les référents du jeune pratiquant, mais également dans la tête du jeune ou de la jeune pratiquante, parce que la gente féminine fait partie des axes de développement du sport moto. Oui, il y a une part de risque. Est-ce que ça limite le développement du sport? Probablement. Cependant, les mesures de sécurité qui sont mises en place à la fois par la fédération au travers ces règlements techniques qui imposent le port du casque, de protection ventrale, pectorale, dorsale, les coudes, les genoux, ce genre d'équipement. Et puis les consignes qui sont données par les encadrants du sport proposé aux jeunes font qu'en réalité, pour ceux qui prennent la peine d'ouvrir la porte du sport moto, de franchir le pas et de venir voir comment ça se passe, en général, les parents sont plus rassurés, sont même plutôt surpris en fait de l'absence d'accident chez les plus jeunes, puisque l'accidentologie qu'on observe en sport moto, elle ne se passe pas du tout chez les jeunes, mais bien plus chez les jeunes adultes. Oui. Ceux qui
c'est justement votre vocation d'apprendre à rouler à moto à travers votre piste.
Oui, alors nous, on permet de rouler par session, de groupe de niveau, etc. Oui. Parce qu'en moto, c'est assez simple de faire du circuit à l'inverse de la voiture, où là, il va y avoir des freins qui chauffent, etc. Avec la majeure partie des motos, on peut aller rouler sur piste. Donc moi, je suis toujours resté dans l'optique qu'on a sa moto et puis on est équipé, on vient comme on est, on scotche les rétros, etc., on enlève et tout. Ça permet d'observer le paddock, parce qu'il y en a qui en font depuis 15-20 ans, qui ont amélioré les choses au fur et à mesure du temps. Il faut prendre son temps, parce que c'est un grand plaisir, la moto. Une journée de piste, pour moi, ou deux, ça fait une semaine au ski, quoi, en plaisir, en souvenir, quoi. Donc voilà, il ne faut pas forcément être dans le dans la pratique hyper intensive tout de suite, mais voir ça sur le long terme, s'équiper progressivement, il y a aussi de l'occasion. Et puis voilà, au niveau... donc voilà, nous, on est plus sur du conseil, etc. Mais on n'a pas encore vraiment de coaching. Alors on s'est associé avec une... Enfin, on est en train de s'associer avec une école de pilotage qui est en Ile-de-France, d'ailleurs, Schwartz Performance, justement pour nous mettre un moniteur sur les journées, donner ses conseils là en atelier pilotage et pouvoir faire un peu de coaching en plus.
Alors, vous avez combien de clubs en Ile-de-France? Quels sont les départements où il y en a le plus? Et puis, la moto, c'est toutes sortes de sports. Hein. Il y a la piste, il y a le motocross, il y a l'enduro, il y a même le motoball.
Tout à fait. Alors, pour répondre à votre première question, l'Ile-de-France, c'est une soixantaine de clubs, suivant les années. Ouais. C'est sensiblement moins qu'il y a une vingtaine d'années, puisqu'il y avait une petite centaine de clubs, il y a encore 15 ans en arrière. Et en ce qui concerne les disciplines, oui, il y a une grande variété de disciplines. On parlait du motoball. Alors, le motoball, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il n'y a plus de club de motoball en Ile-de-France, puisque le dernier club, il n'y en avait qu'un en réalité, le Versailles Motoball, ça s'appelait, qui officiait à proximité du château de Versailles, de l'autre, enfin, de l'autre côté de la Nationale 10 par rapport au jardin du château. Et voilà, et depuis, bon, malheureusement, la mairie de Versailles a récupéré les espaces, le club a été banni et du coup le motoball, c'est une discipline qui traditionnellement est principalement pratiquée dans l'est de la France parce que la réalité étant que le motoball au niveau européen est très pratiqué dans les pays d'Europe de l'Est. Ouais. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais
sinon les départements où il y a le plus de pratiquants.
Alors, je vous étonnerai pas en vous disant que les départements où il y a le plus de clubs et de pratiquants sont ceux où il y a le plus d'équipements sportifs là où il y a de la place et là où et donc c'est principalement en Seine-et-Marne d'accord. Et dans le sud, enfin dans l'Essonne tout simplement. On a un club qui est au nord de Paris, du côté au-delà de l'aéroport Charles de Gaulle dans le Val-d'Oise. Je parle d'un équipement sportif de motocross et sinon un petit peu dans les Yvelines il y a un terrain trial, mais bon il n'y a vraiment pas grand chose. L'essentiel de l'activité de sport moto est d'abord axé sur les disciplines tout terrain et principalement, je vous dis, dans l'Est.
La route c'est plus compliqué. Hein.
Alors, la route, il y a une vraie communauté.
Il y a le circuit Carole, hein, mais bon voilà.
Alors il y a une vraie communauté de pistards entre guillemets que notre ami représente également. Mais qui pratique sur le circuit Carole, sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Il y a un circuit aussi qui est homologué pour la pratique de sport moto la Ferté-Gaucher, mais surtout ce sont des gens qui se promènent beaucoup, qui vont dans les circuits un petit peu partout en France, que ce soit à l'entraînement ou en compétition.
Et sur Paris alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir des clubs de moto sur Paris et s'initier facilement à cette discipline sportive? Vous êtes obligé de vous délocaliser fatalement.
Alors sur Paris, oui, on pratique plus de sport moto sur Paris. Ouais. Le nombre de clubs a fortement diminué. On est passé en 15 ans de 12 clubs à 2 clubs, donc 3 maintenant.
Ouais.
Donc il y a une forte diminution. Donc, du coup, forte diminution aussi des licenciés. On est passé de 1000 licenciés en 15 ans à une centaine actuellement.
Et tous liés à l'enduro, motocross, plus que par
ça,
la route.
C'est toutes disciplines confondues. Hein, toutes disciplines confondues. Par contre, on pratique plus de sport moto, sauf le trial depuis je sais pas combien d'années à Montmartre.
Ah, c'est dommage là sur la butte.
Et,
là.
ça, c'est une des dernières compétitions.
Oui, c'est vrai qu'il y avait des compétitions, je me souviens.
À Montmartre.
Oui, sur les marches de la basilique.
Oui, sur les marches, c'est ça.
C'était un truc assez improbable à l'époque, oui, mais bon, là, pour le coup, ça fait plus de 20 ans que ça se fait plus.
Bien sûr. Et alors, donc,
Par contre, les motos électriques nous ont permis de revenir au cœur des centres-villes.
C'est sûr. Oui, allez-y.
Et par le biais d'initiations, de découvertes, de pouvoir, avec des motos électriques, faire tourner des jeunes.
Sans qu'il y ait trop de nuisances, sans qu'il y ait trop de plaintes,
Ça nous a permis de revenir sur des animations scolaires. Jérôme s'est occupé des animations sur City Scout. dès l'ouverture des scooters électriques, on a participé à l'animation. Donc ça a permis, et ça se faisait en plein cœur de Paris. Donc ça a permis, les motos électriques nous ont permis de revenir, de faire une pratique au cœur des centres-villes.
Voilà. D'accord. Bertrand, c'est aussi donc une des particularités de votre club, non ?
Oui, alors tout à fait. Nos événements, on les organise en province, en fait. Notre course qu'on organise en juillet, elle est en Côte d'Or à Salives, sur un domaine tout-terrain. Et puis on organise un événement plus loisir dans l'Aude, sur le domaine de Château de la Stour, vers Narbonne. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Paris a été un peu initiateur de tout le tout-terrain en France, enfin la région parisienne. Et les motocross à Montreuil, à Argenteuil, il y avait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 100 000 spectateurs. Le trial est né en banlieue ouest, le trial de Saint-Cucufa, Chaville. Et la région parisienne était vraiment passionnée et organisatrice de grands événements moto au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui.
Alors, donc aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans un club, il y a des sites internet partout. Ça coûte combien ? Parce que c'est aussi un sport qui est cher, qui est onéreux. Alors, comment ça se passe ?
Alors, c'est un sport qui est onéreux parce que c'est un sport mécanique, hein, de toute façon, mais qui du point de vue de l'inscription est pas plus cher qu'un autre sport. Hein. C'est-à-dire que la cotisation à un club, en général, la cotisation annuelle, je parle, c'est une cinquantaine d'euros. Ça dépend des clubs.
Après, il y a l'équipement.
Alors après, il y a l'équipement en fonction des disciplines. Ça commence, je dirais, entre 500 et 1000 euros. Et puis, ça peut atteindre des sommets. Mais ça, c'est chacun qui voit la qualité et la technicité des équipements qu'il souhaite s'acheter. Reste la moto. Et puis,
c'est le problème, quoi. La moto, et puis, il y a fatalement de la casse. Il y a des rechanges. Ça se passe comment ? Il y a des sponsors, des fois, qui aident ? Ou il y a des participations de clubs ?
Alors, oui, il y a tout ça. On peut tout imaginer. Moi, j'avais cru comprendre dans votre question que le sujet, c'était de savoir comment on débute.
Quand on est au commencement de sa carrière sportive.
Eh bien, on n'a ni sponsor, ni... Oui. Alors, aide des clubs au coup par coup, ça peut s'imaginer. Le matériel, une moto, ça dépend, c'est pareil, ça dépend des disciplines et ça dépend du matériel que vous souhaitez acheter. Mais bon, je dirais que pour une pratique normale, ça peut commencer à partir de 2000 euros d'investissement sur une moto, jusqu'à ça peut atteindre des sommets, plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros pour ceux qui courent en Grand Prix. Hein, donc voilà, il y a vraiment un éventail très très large de prix entre guillemets. Le soutien des clubs comme des sponsors s'entend le plus souvent de pilotes qui ont déjà une carrière et des résultats sportifs signalés, parce que les partenaires, ils veulent qu'on parle d'eux, hein, c'est bien naturel. Donc que ce soit les partenaires publics ou les partenaires privés, aujourd'hui il y en a de moins en moins, ils sont de plus en plus exigeants et ils ont de moins en moins de budget disponible. Donc pour débuter, il faut pas compter là-dessus de toute manière. Hein. Mm-hmm. Mais une fois que vous êtes équipé, c'est un sport qui est pas plus onéreux que ça quand on pratique en entraînement. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une casse, hein, mais entretenir une machine, c'est pas forcément des milliers d'euros par saison. Hein. Jean Lescure, qui est à côté de moi et qui est bien connu pour être particulièrement économe de son matériel, pourra vous dire qu'une saison...
C'est combien un budget moyen, par exemple, pour une saison ?
Ah, j'avais qu'une idée, je ne peux pas vous donner comme ça un budget
alors
moyen.
On parle du cross, hein, parce que je pense que sur la route, ça doit être un petit peu différent.
Alors, je pense que le cross doit être un peu plus cher, plus élevé, mais le sport mécanique le moins cher, c'est le trial. Oui. Je pense que c'est celui qui doit... où il y a le moins de casse, il y a moins d'usure... ensuite, c'est l'enduro qui doit se toucher, qui ne doit pas être très très loin. Mais le gros budget d'une compétition, c'est pas le matériel, hein, c'est les déplacements.
Ça en fait partie.
C'est qu'on va en fait confort, c'est les hôtels parce qu'on va loin.
Ah oui, ça en fait partie, oui.
Donc c'est l'hébergement, la restauration, l'assistance, tout ça fait un coût global qui... comparé au prix du matériel, reste assez conséquent aussi.
Et les saisons durent de quand à quand ? Elles commencent
Ça dépend des activités, mais généralement, par exemple, dans le motocross et l'enduro, ça démarre plutôt en mars et ça finit en octobre.
Ouais.
Ah oui. Oui, nos saisons sportives sont calées sur l'année civile en réalité. Mmh. Et pour revenir à votre question initiale, qui je suppose intéresse les futurs pratiquants ou les pratiquants parisiens en élargissant à l'Île-de-France, il y a des cycles de compétition qui sont organisés en Île-de-France, dans des disciplines, comme le disait Jean à l'instant, dans le trial et dans le motocross, qui, du point de vue des déplacements, ne sont pas si onéreuses que ça, parce que, ben voilà, suivant l'endroit où vous habitez, si vous êtes à 40 km du lieu de compétition, ben voilà, ça ne vous coûtera pas plus cher qu'emmener votre enfant à un match de foot. Si vous habitez dans le nord de la Seine-et-Marne et que la finale du football est à Melun, ben voilà, ça vous fait une belle balade aussi. Hein, donc, non, il y a possibilité de pratiquer du sport moto en Ile-de-France pour un coût raisonnable, mais il ne faut pas se voiler la face. Dès qu'on arrive dans des cycles de compétition de plus forte notoriété, ben oui, comme le disait Jean, on est amené à se déplacer partout sur le territoire national, voire international, pour les championnats du monde. Et donc là, ben oui, on entre tout de suite dans des budgets qui sont beaucoup plus conséquents.
Et on est obligé de se spécialiser très tôt, quand on commence le sport. Alors, on commence à quel âge ? On peut commencer à quel âge ? 7 ans, 8 ans ?
On peut commencer à partir de 5 ans. 5 ans. En réalité, la compétition, enfin, une approche de la compétition à partir de 6 ans, la vraie compétition, je dirais, à partir de 7 ans. Alors, on peut pratiquer, on a des exemples de grands champions qui ont été, qui ont fait de très très bons résultats dans des disciplines très très différentes. Jean-Michel Bay, par exemple, a été multi-champion du monde de motocross et qui a été un très bon pilote dans la discipline vitesse. Mais ça reste quand même des exceptions parce que ce sont des disciplines qui, de par leur environnement et leur technicité, tout simplement, sont quand même très spécifiques. Hein. Voilà. La norme des pilotes fait qu'ils pratiquent une seule, voire deux disciplines, si c'est des disciplines proches. Je pense aux enduristes, par exemple, qui peuvent faire un peu de motocross, ce que je veux dire. Mais bon, c'est le parcours de Jean-Michel Bay est quand même une exception. Quoi.
Oui, et les carrières durent 30, 40 ans, à l'âge de 40 ans. Alors, mais peut-être plus pour les gens qui font de l'endurance.
Alors, ça dépend ce que vous appelez une carrière pour les pilotes de très...
Une pratique en compétition, tout au moins.
Alors, une pratique en compétition de très haut niveau, les pilotes en général à une quarantaine d'années sont un petit peu au bout de leur histoire, mais pour ce qui concerne le sport amateur, par exemple dimanche 4 mai, là, ce dimanche qui vient, on organise une épreuve de championnat de France de motocross vétéran sur le circuit de Fublaine à côté de Meaux, j'en profite, n'hésitez pas à passer nous voir. Et donc il y a 4 catégories de vétérans dont la catégorie supérieure, je dirais, en âge, compte des pilotes qui ont jusqu'à 70 ans. Hein, donc, pour connaître un petit peu la discipline, ça reste du sport moto, du vrai sport moto.
Et sport très physique, hein, on va dire. Donc il faut une préparation physique, hein, faut faire attention à son poids, à tout ça. C'est important.
Il faut faire attention, tout comme, discipline sportive. Bien sûr. Il n'y a que ceux qui ne font pas de moto qui ont le sentiment que là, il suffit de tourner la poignée. Hein.
Alors, sur votre piste, les tarifs, ça se passe comment ?
Oui, alors nous, on les loue, donc on loue des circuits et on propose à des dates précises de venir rouler avec sa moto. Alors, on a les écuyers, alors c'est pas en Ile-de-France, mais c'est dans la pointe sud de l'Aisne, donc c'est juste après Disneyland, sur la 4. Ouais. Donc ça, c'est assez pratique pour venir rouler de Paris. Et puis, on a des dates le week-end. Là, on est à 129 € pour la journée, avec 6 fois 20 minutes et 1 heure libre le soir. Ça permet, si on a une panne ou de rouler avec ses copains, de rouler un peu plus. Et puis après, ça va jusqu'à 209 à Dijon et Manicourt sur des fériés.
Ah, des circuits prestigieux, quoi. Ouais. Et là, on atteint quelle vitesse, hein ? On s'est salé, là ?
À Dijon, on peut dépasser 300, je pense. Et puis Manicourt, 280. Voilà, mais après, au niveau du budget vitesse, comme vous le disiez, il y a beaucoup de différences entre aller sur un circuit proche de chez soi avec une petite moto et aller avec une moto hyper performante loin de chez soi, parce que l'hiver, en fait, il n'y a pas d'arrêt de saison. Non, en fait, nous, on propose des dates aussi en plein hiver en Espagne.
Mais s'il y a du verglas ou du givre, comment on fait ?
Non, mais on est en Espagne,
ça va, au soleil, il n'y a pas.
Et donc il y a Almeria, Jerez, des circuits comme ça. Et puis, il y en a qui font le déplacement jusque-là. Alors, ça leur coûte cher, mais ils font des vacances et tout. Et puis... pour les pilotes, alors il y en a qui font ça par pur plaisir dans esprit de vacances et tout. Et puis après, bon, il y en a qui viennent aussi préparer leur saison.
Pour préparer des compétitions.
Très, très, très bons pilotes qui se sont inscrits directement ou indirectement avec nous.
Et vous êtes combien à travailler pour cette piste?
Là, je suis tout seul, mais après, il y a ma femme qui m'aide. Et puis après, on offre les photos sur les roulages France. Donc, quand on loue les pistes en exclusivité, il y a un photographe, on monte les pneus. Alors, aux écuyers, je le fais moi-même parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais sinon, on a un monteur de pneus qui fait aussi un pré-contrôle technique sur Magny-Cours, Dijon. Pour prévenir un peu les négligences qu'il pourrait y avoir, pas vu les participants.
C'est une façon de s'initier à bien conduire sa moto, quoi. Même en compétition.
Sur route, la moto, c'est quand même assez lié à la vitesse. On ne peut pas. C'est un délit, mais celui qui roule au double de la vitesse, c'est difficile de reprocher à l'automobiliste qu'il ne l'a pas vu. C'est difficile d'apprécier la vitesse. Et puis le motard, il doit faire attention à tout. Il y a plein d'impondérables, etc. Alors que sur circuit, tout le monde va dans le même sens. Il y a personne qui arrive en face. Il y a des bacs à gravier, etc. C'est un sport mécanique. C'est-à-dire qu'après, on peut se concentrer sur les réglages de la moto, les pressions des pneus, les trajectoires, etc.
C'est hyper important.
Alors ça coûte cher parce qu'il faut atteindre le circuit. Mais une fois qu'on l'a atteint, on gaspille pas entre guillemets d'essence. Celui qui va rouler vite sur la route, il va aller dans des virages qu'il connaît autour de chez lui, mais il a tout un trajet aussi pour y aller, et puis il n'aura pas beaucoup de temps où il fera une route qui lui plaît, quoi. Alors que sur circuit, il faut aller sur le circuit, mais après par contre il fera les tours le plus vite possible, il s'amusera au niveau vitesse, quoi.
Bertrand, alors vous, pour votre club, ça se passe comment si on veut venir vous rejoindre?
On a un site internet, pas pour le club directement, en fait, pour notre société qui organise les événements.
Oui.
Donc ça s'appelle AMV Green Rally. C'est un portail qui donne accès soit à l'événement loisir qu'on fait dans le sud de la France, soit à la course qu'on organise en Côte d'Or.
C'est-à-dire, on s'en va, et puis on va faire un certain nombre de kilomètres,
Événement loisir, je dis loisir parce qu'en fait, ce n'est pas une compétition. Donc, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de... c'est un immense domaine vinicole qui fait peut-être 1000 hectares. Sur lequel il y a 100 kilomètres de piste. Donc on propose 4 niveaux de pistes, comme un peu au ski, piste bleue, piste verte, piste rouge, piste noire. Et chacun choisit, chacun progresse et chacun passe un bon week-end comme ça, dans un cadre idyllique, à s'amuser, progresser.
Ça, c'est tout âge confondu.
C'est permis, pour les motos trail. Des motos typées un peu Paris, c'est l'esprit Paris-Dakar, parce qu'à Château de l'Astour, dans les années 2000, il y avait eu des prologues du Paris-Dakar. Donc on est un peu dans cet esprit-là.
Oui.
Et après, sur la course, c'est une endurance TT par équipage, de 1 à 3 pilotes, et les tarifs d'inscription vont de 220, 230 à 350 selon le nombre de pilotes. Et en revanche, là, une licence est obligatoire. Soit une licence à l'année pour ceux qui font des championnats ou qui roulent régulièrement en motocross, en enduro, soit une licence, une manifestation que propose la FFM, où là, effectivement, on va sur le site de la FFM et on choisit l'événement et on prend la licence, une manifestation pour cet événement-là.
D'accord. Allez, on va marquer une petite pause musicale, ensuite on va parler handball, et puis on poursuivra après cette émission avec le journal Omnisport, le point foot Stéphane, et puis on finira encore par quelques petits mots sur la moto. Allez, on y va, la musique.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Voilà, émission de tous les sports, hein, je vous l'ai dit. Alors, on va parler donc handball. On va prolonger un petit peu l'émission qui avait été faite il y a 3 semaines à la maison du handball à Créteil. Vanessa, avec ce tournoi donc, des 4 nations de U20, hein, qui est préparatoire donc, au championnat d'Europe, qui a été disputé il y a 15 jours à Meudon.
À Meudon, oui, tout à fait, du 11 au 13 avril. Donc, il y avait les 4 nations, la France, la Norvège, la République tchèque et la Serbie. Mmh. Alors, on a commencé par une légère défaite de l'équipe de France, 27 à 26 contre la Serbie. Et puis, le lendemain, d'ailleurs, vous y étiez, 34 à 24 pour victoire pour l'équipe de France.
Oui, mais
cette
il y avait
fois.
D'autres matchs avant, le vendredi.
Exactement, il y avait aussi, oui, tout à fait, la Finlande contre la République.
Non, ce n'était pas la Finlande.
C'était,
Non, c'était la Norvège.
La Norvège, pardon, contre la République tchèque. Oui. C'est... la Norvège qui l'a emporté 34 à 31, on va donner. Donc, ça, c'était pour le vendredi 11 avril. Pour le samedi 12, on avait un premier match donc, de la Serbie contre la Norvège. Cette fois-ci, un peu match retour. Et avec une victoire de la Serbie, 32 à 26. Et puis, match de l'équipe de France, donc 34 à 24. Ouais. Victoire de l'équipe de France. Belle revanche pour les filles, hein, U20 féminine.
Oui, alors match très, très maîtrisé. On va donc écouter deux consoeurs qu'on a rencontrés qui commentaient pendant tout le week-end.
Sur Handball TV. Oui,
sur Handball TV. Donc c'était Anne Cornillet-Dufour et puis Raphaël Korn. On les écoute et elles nous ont parlé comment elles se préparaient donc, pour ce match de hand. Allez, je suis avec Raphaël et Anne donc, qui commentent aujourd'hui ce match sur Handball TV. Alors parlez-nous un petit peu d'abord de cette chaîne internet.
Écoutez, Handball TV, bon, c'est la chaîne de la fédération, de la ligue, hein, qui diffuse pas mal d'événements, notamment les D1 féminines, masculines et les matchs des équipes de France. Donc c'est un plaisir de commenter ces matchs-là.
Alors, vous venez du milieu du hand, je suppose. Donc ce sont des commentaires qu'on prépare régulièrement. Hein. On vit, on mange, on dort handball.
Bah écoutez, nous on vit, on mange, on dort sport en général en plus, hein, mais handball aussi effectivement, hein, c'est forcément une passion aussi quoi, donc ça fait toujours plaisir de venir commenter, en plus l'équipe de France, c'est un immense honneur.
Oui, alors, comment on se prépare pour un match? Des fiches?
Bah oui, les fiches, les stats, évidemment, les listes de joueuses, les noms aussi, parce que faut répéter les noms, évidemment. Avec là, par exemple, on a les joueuses norvégiennes, tchèques. C'est pas des noms faciles à prononcer. Donc voilà, faut se préparer à tout ça.
Alors, vous avez des petites répétitions entre vous en off?
Oui, bah forcément, on discute des matchs avant. Voilà, on ne se connaissait pas avant avec Raphaël, avant ces matchs-là. Donc là, ça nous permet de discuter de notre passion, le handball. Et puis, effectivement, on regarde un peu de notre côté qu'est-ce qu'on trouve comme info, des infos un peu personnelles sur les joueuses, parce qu'on aime bien un peu les infos croustillantes. Et puis après, bah, tout ce qui est les statistiques. Donc ça, c'est peut-être le plus long, le plus fastidieux, parce que voilà, c'est des chiffres et des chiffres et des chiffres. Mais en même temps, c'est ce qui montre les performances des joueuses.
Et ça, c'est toute l'année, hein, toute la saison de handball.
Alors pour nous, on est plutôt multisport, donc on doit mettre à jour nos fiches, mais c'est pas forcément de façon régulière comme les gens qui sont que sur un sport toute l'année. Mais là, oui, nous, on essaie d'être polyvalente sur nos différents sports co.
Alors comment ça se passe? Vous prospectez au sein des ligues, des fédérations?
On prospecte surtout, et puis maintenant sur les réseaux sociaux aussi, ça aide beaucoup quand même d'avoir ce genre d'informations. On regarde, on stalk un petit peu les profils des joueuses, et puis on lit beaucoup la presse quotidienne régionale, forcément. C'est ce qui nous aide le plus.
Alors, quels sont les sports que vous commentez autres que le hand?
Alors, moi, je connais maintenant un petit peu de football, de l'athlétisme aussi, et sinon, je travaille sur ces sports, mais pas forcément en commentatrice, mais c'est des sports que je suis toute l'année.
Et vous souhaitez, donc vous êtes bénévole sur le handball, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
Et vous souhaitez un jour peut-être être carrément journaliste?
Alors, je suis journaliste déjà, je travaille pour Eurosport notamment, mais pas encore en commentaire, parce qu'il faut voilà, un peu plus d'expérience, mais en tout cas pour s'aguerrir, c'est très bien comme expérience aujourd'hui.
Et la collègue?
Pareil, football, rugby beaucoup dans l'e-sport aussi, les compétitions de jeux vidéo. Après, il y a d'autres sports qui attirent évidemment. Hein. L'athlétisme, le judo, c'est des objectifs aussi. Et puis oui, effectivement, bah, voilà, là, sur des événements comme ça, c'est forcément des moments où on prend de l'expérience, des matchs internationaux. Donc c'est forcément le meilleur niveau. Donc c'est des matchs où on s'entraîne beaucoup.
Très bien, écoutez, merci, puis bravo, et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà donc pour nos deux consoeurs, donc Anne et Raphaël, hein, qui commentent donc pour Handball TV notamment. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de connexions donc durant ces trois jours de compétition et à l'occasion pour leurs commentaires. Alors tu parlais du samedi,
le
match que l'équipe de France a très largement maîtrisé. Hein.
Voilà, vous y étiez fini, ouais. Vous avez pu le vivre en direct. Oui. Et donc 34 victoires donc pour l'équipe de France, 34 à 24.
Oui, match bien maîtrisé. Et on va écouter justement Andy Julie Love Andon,
ouais. Donc joueuse de cette équipe de France. Ouais.
Arrière de cette équipe de France, vous allez voir, interview faite dans la bonne humeur. Allez, Julie Andon. Julie, bah, finalement un match très maîtrisé.
Oui, on a réussi à bien jouer. On s'était fixé des objectifs et on les a réussi sur le plan défensif et dans la course aussi sur la montée de balle. Du coup, on est content, voilà.
Bon, ça donne un peu de regret par rapport au match d'hier où vous avez perdu d'un tout petit but. Hein.
Oui, on a perdu moins un. Bon, sur des petites choses qui restent à corriger, mais on est en phase de progression et du coup, bah, ça va bien se passer, je pense. Bon,
demain, c'est le dernier match. Il y aura peut-être la victoire finale à condition que la Serbie soit battue.
Oui, on espère. Bon, on va mettre toutes les chances de nos côtés, hein, et on va essayer de continuer à progresser sur les trois matchs pour gagner le dernier au moins. Même s'il y a eu une défaite déjà, bah, la compétition n'est pas finie. Donc, voilà, on fait tout.
Qu'est-ce qui fait la force de ce collectif?
En fait, on a fait plusieurs équipes ensemble. Du coup, on a fait les U16, les U18 et maintenant on est en U20. Du coup, on s'entend bien et bah, c'est comme une petite famille. Et du coup, bah, voilà, y a de la bonne entente et du coup, le groupe il marche bien, quoi.
Alors, un soir comme celui-là, pour la récupération, c'est important demain, donc pas trop de débordements ce soir, on va attendre un peu.
Oui. Comme le match demain il est à 15h, on enchaîne vite, bah on faut se reposer, faire la récup en priorité et bah dormir, hein, pour que demain on soit en forme.
C'est ça. Et le public, vous l'avez trouvé comment ce soir?
Y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'encouragements et tout ça. Ça fait du bien, ça nous aide à bien jouer. Les encouragements, tout ça, c'est toujours positif. Ouais.
Ce genre de tournoi, ça emmène vers d'autres grandes compétitions après. Donc les objectifs, c'est quoi après?
Du coup, là, on a l'Euro, c'est la grande échéance. Et du coup, on fait plein de tournois pour se préparer. Et voilà, le but, c'est de sortir d'ici en progression.
Très bien. Eh bien, merci. Je vois les copines vous faire rire, c'est bien.
Ouais.
C'est ça l'esprit d'équipe.
Oui, c'est ça.
Ah oui, l'ambiance était bonne. Malheureusement, Vanessa nous en parlera tout à l'heure. Ça s'est un petit peu moins bien passé donc, le dimanche pour cette équipe de France. On va écouter donc, la coach adjointe, l'ancienne joueuse de l'équipe de France féminine de handball, Camille Aiglon-Sorina, qui elle a déjà la vision sur les championnats d'Europe. Bon, Camille, prestation accomplie de l'équipe, match remarquablement bien géré.
Oui, on est très contents ce soir du match qu'ont fait les filles. On avait envie de voir une réaction. On est en train de changer beaucoup de choses dans le jeu, d'essayer de faire évoluer. Donc c'est pas facile quand on demande du changement. Il y a des périodes d'adaptation et ce soir, en tout cas, elles ont été très appliquées dans ce qu'on leur avait demandé, très sérieuses et constantes dans ce match où il n'y a vraiment pas eu de passage à vide. Donc forcément, satisfaites du résultat. Après, on sait que le plus difficile est d'enchaîner un troisième match en trois jours contre un adversaire contre qui on veut assurer parce qu'elles sont dans notre poule à l'Euro cet été. Et voilà, donc on espère que les filles vont avoir mettre tous les ingrédients pour être au rendez-vous demain à 15h.
Comment ça se passe une récupération comme ça pour demain entre deux matchs?
L'essentiel, c'est d'arriver à s'endormir pas trop tard parce que c'est vrai qu'il est déjà très tard, temps de rentrer à la maison du handball, de manger, de faire les soins, de se mettre au lit et surtout d'arriver à faire redescendre la pression et l'adrénaline d'un match. C'est vraiment l'enjeu principal de faire une bonne nuit de sommeil et puis demain d'arriver à se dynamiser très tôt. On a un super préparateur physique qui va leur faire un réveil musculaire aux petits oignons pour les mettre dans de bonnes conditions et puis très rapidement préparer tactiquement le match face à la Norvège. Mais comme je vous le dis, on travaille beaucoup sur nous, donc on est encore plus focus sur ce que nous on est capable de proposer et c'est le focus qu'on va garder pour demain aussi.
Ça laisse des graines naturellement le match d'hier, d'un tout petit but.
Oui, après bien sûr qu'on aurait aimé préférer gagner ce match-là. Maintenant, finalement, si on l'avait gagné d'un but, ça n'aurait pas fondamentalement changé ce qu'on a proposé. Donc voilà, on s'est regardé et c'est sûr que si besoin il y avait, ça met un petit coup de pression parce que l'Euro arrive très vite, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler et cette équipe serbe ne faisait pas partie jusqu'à présent du top 4, top 5 international. Donc voilà, ça montre qu'il y a beaucoup d'équipes ambitieuses et que ce qui était vrai peut-être dans leur génération en U18 sera peut-être pas la réalité des U20. Donc voilà, ça leur donne encore plus envie de se mettre au travail.
C'est quoi la force de ce groupe?
La force de ce groupe, je pense que c'est qu'elles ont vraiment énormément de qualités, des qualités très différentes d'une joueuse à l'autre. Notre mission particulière, c'est vraiment d'arriver à mettre de l'harmonie et surtout à les organiser en système parce qu'on a trouvé jusqu'à présent qu'elles n'arrivaient pas à exploiter tout leur potentiel parce que justement elles n'étaient pas assez connectées. Donc défensivement notamment, on veut vraiment les organiser en système et c'est le plus gros chantier jusqu'à cet été.
Bon, pour finir, avec des grosses ambitions naturellement pour le championnat d'Europe, hein. C'est le but.
Oui, c'est vrai que c'est une génération qui a eu notamment dans la première partie de ces deux années de génération U18 de super résultats, hein, parce qu'elles ont, gagné la compétition, elles ont gagné les Foges, donc elles ont fini malgré tout sur une désillusion l'année dernière avec une quatrième place. Donc elles savent ce que c'est que gagner, elles savent ce que c'est aussi que finir à la quatrième place.
Plus mauvaise place.
ouais. Donc il n'y a pas à douter qu'elles vont mettre tout en œuvre et on va les aider au maximum pour essayer de bien figurer dans cet Euro qui nous attend.
Et puis certaines seront à Los Angeles ou à Brisbane.
Ouais, c'est un objectif lointain, mais on va dire qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Et pour l'instant, même si je le souhaite à la plupart, si elles peuvent arriver à ça, ça serait génial pour elles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place d'ici là. Et je pense qu'elles ont tout intérêt à se focaliser sur les objectifs.
Voilà, alors effectivement, il y a eu cette courte défaite le vendredi, il y a eu ce match très maîtrisé donc du samedi, 34-24, et puis Vanessa, ça s'est à nouveau moins bien passé le dimanche.
En effet, donc le dimanche, défaite de l'équipe de France pour une différence de 2 points, donc l'équipe de France s'est inclinée 21-23 donc face à la Norvège. C'était un match beaucoup plus serré avec des retours au score parfois de la France. Mais finalement, la Norvège a quand même mené dans l'ensemble une partie du match. les filles récupérées, et puis c'était aussi un contexte un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de joueuses majeures qui étaient blessées. Mais pour autant, ils ont fait avec, ils ont quand même su, gérer la situation. Mm-hmm. Honnêtement, c'était quand même, dans l'ensemble, c'était satisfaisant. Ouais. Les filles revenaient d'un stage d'une semaine aussi de préparation. Justement à la maison du handball à Créteil. Et puis on va donner le classement, oui, d'abord.
Et puis il faut quand même dire que, bon, on l'a vu dans les interviews, hein, ouais, que ce soit de Julie Love Andon ou de Camille Aiglon Sorida, l'objectif il est quand même plus
l'euro
lointain. Hein.
Oui.
Voilà, c'est l'euro surtout avant tout. Hein,
tout
c'est
à
de
fait,
faire
ouais,
cette force
en juillet ouais, c'est ça, prochain. Voilà. Donc ça va être surtout de travailler sur ces axes, ouais, et dans un podcast que vous pourrez bientôt,
oui,
retrouver,
oui, oui,
où justement vous aurez beaucoup plus d'interviews par
hors
rapport...
Hors les murs, c'est-à-dire qu'on réécoutera ces interviews-là, puis celles que tu as faites le dimanche.
Exactement, ouais, celles qu'on a faites le dimanche. Mmh.
Tu vas donner le classement.
Le classement, donc la Serbie, on en parlait, hein, tout à l'heure.
Un petit peu inattendu, la Serbie, apparemment.
Nation ouais, qui fait nation un peu surprise, qui commence à se hisser parmi les meilleures chez les féminines. La Norvège, qui chez les femmes est une nation phare déjà depuis un certain nombre d'années, et ouais, notamment chez les seniors. Et puis donc la France, voilà, avec deux défaites, une victoire. Et puis la République tchèque, quatrième.
Ouais.
Il y a eu également un certain nombre de trophées de récompense qui ont été remises pour les meilleures joueuses. Beaucoup ont été à la Serbie. Donc la Serbie, attention, elles arrivent dans ce carré des quatre nations. Et donc ça va être un adversaire à surveiller, hein, pour le futur, pour l'équipe de France, mais aussi pour ouais, les autres. Voilà.
Donc il y avait beaucoup de monde, hein, dans ce tournoi.
Il y avait
tournoi,
beaucoup de monde, et puis il ouais, y avait notamment donc Evelyne Siriegui.
Qui ne la connaît pas, la populaire.
Notre chère présidente du CROSIP, donc le ouais, conseil régional.
Non, le comité régional.
Régional, excusez-moi.
Olympique et sportif.
Et sportif d'Île-de-France.
Ouais.
Donc on va l'écouter tout de suite.
Faire
je l'ai
le bilan
rencontré
de cette épreuve
le dimanche, ouais, juste après donc, le match de l'équipe de France contre la Norvège. Bonjour Evelyne Siriegui, vous êtes présidente du CROSIF. Vous étiez aujourd'hui ici pour le match France-Norvège dans ce tournoi des quatre nations. Quel regard vous avez porté justement sur ce match et puis sur l'équipe de France ?
Écoutez, le regard que j'ai eu aujourd'hui est un regard de post-JOP, un héritage qui se met en place, qui se constitue et qui va contribuer à l'évolution de la féminisation dans le sport. Je pense que cet engagement des quatre nations d'aujourd'hui, avec des équipes magnifiquement orchestrées, montre que l'Île-de-France, que la Ligue de handball, la Fédération de handball, a pris en compte le fait que les féminines doivent prendre leur place et vont prendre leur place dans le paysage sportif handballeur. Mais par contre, on va aussi l'étendre à d'autres sports, puisque comme vous le savez, il y en a 90 ligues qui sont adhérentes chez nous. Et dans ces 90 ligues, on veut vraiment que la place de la femme soit vraiment majeure et que tous les sports puissent les mettre à parité, c'est-à-dire qu'il y ait autant de médiatisation, autant de compétition pour les hommes que pour les femmes. Et c'est vraiment ce qui nous importe pour qu'on puisse, encore une fois, surfer sur le fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui viennent de se dérouler en France puissent donner cet héritage, une partie de cet héritage. Alors bien évidemment, il y a d'autres secteurs comme la partie du secteur handicap qui nous interpelle également pour qu'on puisse valoriser tout ce parasport. Mais je pense que les féminines ne sont pas encore à parité de compétition, à parité de regard dans tous les postes, que ce soit athlète, entraîneur, bénévole, dirigeant, formateur. On n'a pas encore une parité. Et je pense que c'est important qu'on puisse prendre encore une fois la place qu'elles doivent avoir, toutes les femmes, dans cette aventure sportive qui, comme vous le savez, le sport est impactant, le sport est inspirant, le sport rassemble. Et je pense que cette énergie qui nous a été impulsée par les Jeux va se transformer en Île-de-France et en France, sur les territoires métropolitains et ultramarins.
Et comment on peut continuer justement à étendre, à développer cette féminisation du sport ? Avec quels moyens ? Plusieurs acteurs aussi, puisque c'est...
Alors les moyens, comme vous le savez, vont être relativement réduits. On est tous dans une difficulté financière, je pense que tout le monde le sait. Alors on va falloir qu'on redouble de possibilités de trouver des financements. Mais en tout cas, nous, notre leitmotiv, c'est d'encourager toutes les sections sportives féminines qui vont être mises en place. Parce qu'encore une fois, on a besoin de se construire une équité dans les dirigeantes. Nous, en Île-de-France, toutes nos ligues seront à parité en 2028. Donc, on a besoin d'avoir des femmes qui s'engagent pour diriger les instances. Et quand on dirige les instances, bien évidemment, on peut impulser les événements qui vont mettre la parité homme-femme dans tous les sports.
Merci beaucoup, Evelyne Sariegui.
Voilà pour les paroles sages d'Evelyne Sariegui. Alors, on l'a dit, on retrouvera un podcast spécial.
Spécial donc, hors les murs, exactement, avec différentes
concernant
interviews.
Concernant ce tournoi Yvan Meudon.
De ce beau week-end de handball. Hein,
où on retrouvera donc Anne Dufour, Cornillet et Raphaël, nos consoeurs. Julie Love Andon, Camille Aiglon, Sorina, Evelyne Sariegui, puis d'autres interviews.
Et puis d'autres interviews également.
Madame le maire adjoint.
Le maire adjoint, puis, Francine Lucchini, le maire. Ouais. Donc de Meudon et puis également donc
à nouveau
Julie Love Andon et puis Eric Barra
l'entraîneur
le qui faisait un petit peu le bilan et puis la perspective des Euros.
Très bien. Donc, merci en tout cas Vanessa.
Merci.
La moto donc on va rappeler vous vouliez quand même mettre un petit message sur les jeunes.
Oui, tout à l'heure, nous évoquions la possibilité qui était donnée aux familles de faire débuter les plus jeunes dans nos différentes disciplines. Et il faut signaler qu'il y a un certain nombre de structures qui proposent l'équipement des sessions de pratique clé en main, tout compris. C'est-à-dire que la structure d'accueil propose l'équipement de sécurité, casque, gants, bottes, etc. Mm-hmm. La moto et l'encadrement par un éducateur qualifié, diplômé. Et donc, il y a un certain nombre de structures qui existent, notamment celle du circuit Carole, puisque il ne faut pas oublier, je vais me faire gronder par la fédération si je n'en parle pas, de toute façon. Et blague à part, c'est une des structures phares, c'est la mieux équipée et qui fonctionne bien au demeurant sur le circuit Carole, qui accueille les jeunes à partir de 7 ans. Dans la discipline vitesse avec différents programmes. Pour les disciplines tout-terrain, on a des représentants ici qui pourraient en parler mieux que moi. Je pense à Jérôme peut-être.
Oui, alors il va s'approcher du micro, Jérôme, parce que sinon ça va poser problème. Voilà, donc Jérôme va s'approcher du micro et il va tout nous dire. Donc Jérôme.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Jérôme Tiffel, je suis éducateur sportif brevet d'État depuis 20 ans. Et donc effectivement, il y a des structures qui permettent de débuter la moto sans un investissement important, puisque ces structures fournissent, dans le prix de la prestation, qui est en général des cours avec un moniteur diplômé d'une heure ou d'une heure et demie selon les structures, pour un prix d'environ entre 50 et 70 euros, on va dire, la séance.
Ça va, donc c'est pas honnête.
Qui fournit le matériel. Mmh. Alors, en fonction de l'âge du pilote, forcément, la moto est plus petite ou plus grande. C'est quand même, on va dire ça, ça peut aller jusque 17-18 ans. Après, les enfants grandissent vite maintenant, donc le matériel...
Ouais. Alors tiens, justement, ça tombe bien, on parlait du sport féminin avec Vanessa Solange.
J'allais rebondir là-dessus.
Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font de la moto?
Beaucoup de filles, non, mais il y a un pourcentage de féminines, plus d'ailleurs en loisirs qu'en compétition. Mais là, il y a un championnat féminin de motocross qui existe.
Il y avait même une écurie à un moment, uniquement. On a connu quelques championnes de moto.
Alors en vitesse, je crois que ça existe toujours. Ouais, en vitesse, il y a des cycles. Dans toutes les disciplines, il y a des cycles spécifiques au niveau national, j'entends, qui sont dédiés aux féminines. Pour la région Île-de-France, celle sur laquelle je me concentre, moi, c'est quand même assez peu représenté, il faut bien le dire. En tout cas, on n'a pas de quoi organiser des championnats spécifiques aux féminines. On fait des classements, c'est-à-dire que les féminines qui viennent s'engager sur nos épreuves sont classées, font l'objet d'un classement spécifique pour les féminines. Mais bon, voilà, il ne faut pas se mentir, la pratique féminine en Île-de-France, c'est moins de 5%.
Même en motocross ?
Dans toutes les disciplines.
Du coup, il n'y a pas de compétition mixte, par exemple, je ne sais pas, des filles, des femmes qui viennent disputer une compétition avec des garçons et qui finalement ont à peu près le même ranking, enfin, peut-être pas le même ranking, mais qui sont inclus dans le ranking, ça arrive deuxième. Qu'elle passe devant un autre concurrent ou une autre concurrente, finalement, non ?
Ça arrive, mais pour ne pas se mentir, ce n'est pas la norme. Ça peut arriver, mais bon, là, dans le championnat, cette année, le championnat de motocross régional, qui est d'un niveau très accessible à tout venant, je dirais, Il y a deux féminines, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, ouais, donc c'est, ça reste encore une...
C'est très marginal. Au niveau national, on a une représentativité qui est bien meilleure dans toutes les disciplines, hein, il faut le dire. Oui. Et vous évoquiez le cas de féminines qui s'illustrent, y compris en concours en contre des garçons. On a eu une championne de motocross, Livia Lancelot, qui a marqué des points en championnat du monde plusieurs saisons en compétition mixte. Elle n'était pas spécifiquement contre des femmes. Donc ça arrive, mais bon, voilà, il ne faut pas se mentir. Il y a un gros boulot à faire. J'entendais Evelyne Sirieghi parler de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations et des ligues régionales.
Il y a encore du chemin à faire. Hein.
Alors, il y a du chemin à faire, mais on n'est pas si inquiet que ça, parce que si sur les pistes et les terrains, il n'y a pas beaucoup de pratiquants féminines, par contre, autour des pilotes, il y a beaucoup de femmes, parce qu'à chaque fois que vous avez un pilote, souvent vous avez au moins une femme, hein, parfois même plusieurs, mais voilà, donc on n'aura pas de difficulté, je pense, à recruter des femmes. La vraie difficulté, c'est de les convaincre qu'elles y ont leur place.
Parce que ces femmes-là, elles occupent quel poste quand elles viennent sur les circuits? Est-ce que c'est juste comme ça un accompagnement qui n'est pas officiel, ou alors est-ce que c'est...
La moto, c'est beaucoup de logistique. On en parlait tout à l'heure, le déplacement, l'hébergement, la nourriture, la préparation physique, toutes les affaires, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Et donc, les femmes s'y connaissent souvent mieux que leurs hommes, d'ailleurs. Et donc, voilà, sur les compétitions, mais même à l'entraînement, il y a beaucoup de femmes, en réalité, qui sont présentes, qui s'intéressent au sport moto parce qu'elles aiment ça. Bon, elles n'ont pas forcément l'occasion de le pratiquer, mais il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui jouent un rôle très important dans toutes les organisations de manifestations sportives, y compris, à tous les postes, que ce soit en direction de course, dans les jurys, sur les contrôles techniques, le contrôle administratif. Enfin, il n'y a pas de place spécifique pour les féminines. Elles ont leur place, mais elles pensent rarement à se manifester et à se présenter.
La légitimité, elle est peut-être encore un peu plus à construire, mais elles, dans l'image qu'elles se font, peut-être.
C'est le travail qu'on a engagé, nous, sur cette mandature-là, parce que l'échéance de 2028 approche, de recruter, entre guillemets, en tout cas d'inciter les femmes à se présenter, à intégrer les commissions sportives, parce que voilà, nos structures fonctionnent comme ça, avec un certain nombre de commissions sportives, une commission de motocross, vitesse, etc. Et donc, nous avons invité un certain nombre de femmes à intégrer ces commissions. Ouais. C'est le cas, et donc, dans bon espoir de pouvoir arriver à la parité, il faudra de toute façon 2028.
On en a une qui assiste à l'émission ce soir. Allez, juste un petit mot avant d'envoyer la deuxième page musicale. Il y a des manifestations importantes, on n'oublie pas. Le Supercross qui était jadis sur Bercy, qui maintenant est à la Défense.
Tout à fait.
Il y a l'Enduropale du Touquet, dont on a parlé récemment à travers Axel Alétru, son documentaire.
Alors, sur la région Île-de-France et sur Paris, aujourd'hui, sur Paris, il n'y a, à ma connaissance, plus rien du tout de manifestations sportives de sport moto. À la périphérie, il y a effectivement le Supercross de Paris, qui est à l'AUR Arena à Nanterre, qui continue à réunir, à être un franc succès populaire, puisque l'année dernière, ça a été 15 000 personnes sur l'ensemble chaque jour sur les deux journées de course. Donc, c'est vraiment une belle fête de la moto. Sans oublier les manifestations sportives qui sont organisées sur le circuit Carole. Je parle des grands événements. Il y a un championnat du monde l'année dernière qui, pareil, a été un franc succès. Donc, il y a une vraie animation et un vrai savoir-faire, d'ailleurs, d'organisation sur l'Île-de-France. Et c'est une grande partie du patrimoine national des organisateurs qui est basé sur la région. La difficulté pour eux, c'est d'arriver à exprimer leur talent sur le peu d'équipement que nous avons, comme je l'évoquais tout à l'heure.
En tout cas, puis on le verra tout à l'heure avec Alexandre. Il y avait les 24 heures du Mans Moto, puis il y aura la semaine prochaine, je crois, dans 15 jours, le Grand Prix de France. Voilà.
Tout à fait.
Moto. Allez, la deuxième pause musicale, la page foot ensuite, et après le journal des sports d'Alexandre.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête. Et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est tous on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours, si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Voilà, après donc la moto, après le handball, eh ben, place à l'actu du ballon rond sur cette quinzaine. Bonsoir Stéphane Desenclos.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bon Stéphane, on va naturellement, hein, comme on n'était pas là le week-end dernier, plus décortiquer la quinzaine hein, plutôt que la semaine. Alors ça tombe bien parce qu'on arrive dans une demi-finale donc, de Ligue des Champions donc, qui va opposer Arsenal au Paris Saint-Germain et puis Barcelone à l'Inter de Milan. Il faut reconnaître quand même que les vieux démons sont revenus un petit peu au PSG. On a eu peur quand même. Hein, après la victoire en match aller 3-1, il y a eu 20 petites minutes difficiles où sans un bon Donnarumma, 3-2, peut-être que l'histoire se serait écrite différemment.
Ouais, tout à fait, même si on est toujours un peu dans l'exagération. Alors c'est vrai qu'il a fallu un bon Donnarumma, mais bon... On a peut-être aussi un peu oublié que finalement, parce que pour tout le monde, c'est oui, on a sans un très bon Donnarumma, le PSG se faisait éliminer et tout. Il ne faut pas oublier que sans un très bon Donnarumma, effectivement, mais le PSG était amené en prolongation. Quoi. Donc on est encore loin quand même de l'élimination. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas.
Les vieux démons qui reviennent. Paris avait tellement bien maîtrisé sa première mi-temps que les vieux démons sont revenus 20 petites minutes quand même, hein, où on a eu peur.
À ce moment-là, à quart de finale de Ligue des Champions, donc on n'a pas non plus, n'importe qui. On a une équipe en face d'Aston Villa qui est pas mal classé en première ligue et surtout qui a des très très bons résultats à domicile. Alors je pense en tout cas positiver sur le fait que les 20 dernières minutes les 20 dernières minutes Paris a tenu bon pour éviter déjà une prolongation. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va rester pour la suite, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça a été chaud. On s'est tous vus, comme les joueurs sur le terrain, on a tous vu le Paris Saint-Germain un peu trop beau en disant que rien pouvait leur arriver, quoi.
Donc on va rappeler victoire 3-1 en match aller, défaite 3-2, mais Paris qui qualifié et qui va affronter, donc c'est devenu une tradition cette année, hein, un troisième club anglais, Arsenal vainqueur assez largement au match aller du Real 3-0 et qui est allé confirmer sa supériorité en gagnant donc à Madrid 2-1.
Voilà, face à une... Alors c'est vrai que moi j'aime pas dire ça, parce qu'on a dit ça sur Manchester City en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. On n'aime pas dire un petit Real Madrid, mais c'est vrai que cette saison le Real Madrid est quand même très loin de son lustre d'antan et que c'est pas non plus l'exploit du siècle, je pense, d'avoir été gagné d'avoir été gagné à Madrid. Mais il ne faut pas oublier ce que je voulais rajouter aussi, par exemple, par rapport au Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'est que le Barça s'est fait aussi une frayeur quand même.
Oui, mais on va en parler, Stéphane. On va en parler.
Et heureusement qu'ils avaient, qu'ils avaient gagné 4-0 à l'aller, parce qu'ils auraient pu aussi être en très, très mauvaise posture. Donc, ce qui veut dire que... Ça veut dire surtout aussi que quand tu as gagné à l'aller sur un large score, pour ce qui concerne Barcelone, et puis pour ce qui concerne Paris, non seulement l'aller plus le 2-0 à Villa Park, à ces niveaux-là, tu te relâches. On va en parler après en championnat. C'est exactement pareil de ce qui se passe au championnat.
Oui, donc Barcelone vainqueur 4-0, battu 3-1 à Dortmund. Ça sera la deuxième demi-finale. Et bien, le Barça affrontera l'Inter de Milan. Hein, l'Inter qui donc a concédé le nul à domicile de 2 après avoir été gagné donc le match aller à Munich 2-1. Donc ça sera une belle confrontation Barcelone-Inter de Milan.
Voilà, tout à fait, même si c'est pareil, à ce moment-là, on va voir. L'Inter n'est pas au mieux non plus. Depuis, a perdu ce week-end chez lui, et puis a perdu des joueurs aussi importants. Donc, c'est un peu pareil. On va voir comment ça va se passer. Moi, je pense que ces deux demi-finales sont très ouvertes.
Oui, bien sûr.
Moi, il n'y a aucun favori.
Oui, et pour l'instant, donc, les deux équipes qui jouent encore sur les trois tableaux, c'est Paris et Barcelone. Barcelone, il y a déjà une Coupe du Roi, et Paris, il y a un titre de champion. Donc, il reste encore tous les deux en lice pour un éventuel grand chelem. On a eu des demi-finales de Ligue Europa. Et là, rebelote, on a joué les Anglais, mais cette fois-ci, ça a tourné pour l'Angleterre dans un match un peu fou quand même entre Manchester United et Lyon. 5-4 après prolongation pour Manchester United. Donc, après un match aller où Manchester United avait fait nul à Lyon de partout. Il a manqué quoi? Un peu de maturité à ces Lyonnais en toute fin de match?
Moi, je pense que oui, il a manqué certainement. Bon, après... On peut pas en foot, on peut pas non plus tout expliquer. Il y a des fois, il y a des miracles qui se passent. Je sais pas pourquoi. Je pense par exemple, pour regarder par exemple la finale de la Coupe du Monde 2022. Imaginez une seule petite seconde que Colomouani mette le but là à la fin, ça aurait été quand même incroyable. On était mené 2-0.
Ouais. Et puis dominé 70 minutes. Hein. Enfin bon.
Et voilà, exactement. Ouais, déjà, de la tête et des épaules. Et là, il y a ça. Maintenant, c'est vrai que après, donc dans un premier temps, je pense que c'est surtout ça qu'il faut se dire. Bon, on peut pas tout expliquer. Il y a des moments comme ça où c'est incroyable. Puis après, bon, c'est sûr que c'est un peu comme la remontada du Paris Saint-Germain.
C'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu la fin du match entre le Barça et Paris Saint-Germain dans les 7-8 dernières minutes quand le PSG prend 3 buts. Quoi,
voilà, maintenant élimine. Après, c'est sûr qu'il y avait eu sur ce match-là, moi je refuse toujours un peu d'en parler.
Ouais, on a fait le commentaire.
Il y a trop d'erreurs d'arbitrage, c'est incroyable, alors que là, il n'y en a pas eu de manifeste, en tout cas pour Paris. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que de maturité, moi ce que je pense, moi, surtout, c'est l'entraîneur Paulo Fonseca. C'est inexplicable. Je pense qu'il a complètement disjoncté sur ces deux matchs. Il n'y a rien qui peut, pour moi, dans la gestion de son effectif, de son équipe, du match, comme de avant-match, hein, la préparation de l'équipe, il n'y a strictement rien qui se justifie. J'arrive pas à comprendre, mais bon, je ne suis pas entraîneur.
C'est ça le foot, hein. En tout cas, ça a été un des matchs de l'année. Hein. Sur le plan du spectacle, émotion, ça a été un des matchs de l'année.
Est-ce que quelqu'un a une seule explication? Vous parlez des bizarreries, des fois, de Luis Enrique. Mais est-ce que quelqu'un a une seule explication sur le fait de ne pas faire jouer Matic ni à l'aller ni au retour, pas une seule minute, et de ressortir un joueur au coup qui a joué 4 matchs dans toute la saison pour le mettre titulaire dans ces deux matchs-là? Moi, personnellement, je ne vois pas une seule explication. J'en vois pas une. Peut-être si tu penses que Matic est cramé, d'abord tu le remets pas. Je pense qu'il était encore titulaire ce week-end. Tu le fais plus jouer du tout à ce moment-là. Tu penses qu'il est cramé. Au pire, tu mets l'Américain Tetzman à sa place. Mais ça paraît très bizarre. Ça, c'est déjà une je trouve que c'est une dinguerie, quoi. Après, il y a plein d'autres choses dans l'ensemble. La gestion de ce match, je pense qu'elle est pas très bonne. Et puis après, bien sûr, ça continue en lien, ça va de pire en pire. En lien, oui.
On va en parler. On va en parler.
Ouais, c'est absolument incroyable. Maintenant, après, c'est quand même aussi la magie la magie du foot. Hein. Je ne vais pas non plus tout expliquer dans le foot. Hein.
Heureusement. Alors, on va quand même rappeler que les demi-finales de Ligue Europa opposeront donc Tottenham à l'étonnant club de Bodø/Glimt et donc Manchester United à l'Athletic Bilbao. Et qu'en Ligue Europa Conférence, ça sera un Betis-Séville contre Fiorentina, hein, qui aime bien cette Ligue Europa Conférence. Et la deuxième demi-finale opposera donc Chelsea donc aux Suédois de Joe Gardens. Allez, on vient au championnat. 31e journée, à 3 journées de la fin, eh ben ça, non, Paris Saint-Germain ne sera pas invaincu. Après donc sa courte victoire au Parc contre Le Havre 2-1 et son match nul dans le match en retard contre Nantes 1-1, les Parisiens sont encore tombés sur leur bête noire, battus par Nice 3-1.
Voilà, tout à fait. Là, non, après, après, bon, c'est ce qu'on sait un peu aussi, ce qu'on dit, c'est le foot. Oui. Et ce que je vous disais, d'ailleurs, on l'avait à peu près vu, je l'avais à peu près dit, ça. Hein. Continuer à rester invaincu, on a beau dire ce qu'on veut, continuer à rester invaincu, alors que t'es champion avec 20 points d'avance, c'est déjà pas évident.
Enfin,
Quoi qu'il arrive, tu joues contre une équipe, toi, tu es champion, tu es sûr d'être champion, tu joues contre une équipe, par exemple Nice, qui vient qui s'en fout du beau jeu, mais après, qui joue à 10 défenseurs derrière, qui met le but, qui en plus a un gardien qui en réussite, qui réussit tout ce qu'il veut. Et toi, derrière, juste avoir comme motivation le fait de rester invaincu, bah, ça ne suffit pas. Et en plus de ça, c'est ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est que le FC Nantes, par exemple, quand il fait son record de 32 matchs sans défaite.
En 95, oui, 32 matchs sans défaite.
Ouais, ouais. Bah, le FC Nantes, il ne joue pas la demi-finale de la Ligue des Champions en fin de saison, quoi. Donc, ça n'a strictement rien à voir. C'est incomparable, quoi. Mmh. Je veux dire, malgré tout, c'est des hommes. Donc, effectivement, ces trois matchs, s'ils arrivent, moi personnellement, ça ne me surprend pas du tout. On savait très bien que ces trois matchs allaient être très compliqués. Et si ça se trouve, bien que c'est une équipe différente qui peut-être va plus réussir quand même à Paris, moi je craignais beaucoup le déplacement à Strasbourg, mais Strasbourg est une équipe qui joue au ballon, c'est complètement différent. Alors à moins que, effectivement, pour ce match-là, ils décident de mettre tout le monde derrière, mais on a eu à Nantes comme. Même le Havre, Nantes et Nice, finalement, trois équipes qui ont joué à peu près de la même façon, très, très défensif. Voilà. Et puis après, il y en a une qui est Nice, qui a eu plus de réussite, c'est tout. Quoi. Donc, moi, ça m'inquiète pas. Ce où on pourrait un peu s'inquiéter, c'est peut-être sur l'inefficacité. On a peut-être qu'il y a un mois, certaines frappes de Dembélé auraient été au fond, certains gestes. Il a eu 2-3 frappes, c'est passé à 20 cm, c'est passé tout près du but. C'est pas rentré, faudra que ça rentre. Mais sinon, moi, je suis un peu comme vous, Enrique, je suis pas particulièrement content. Ce qui veut pas dire qu'on va battre Arsenal, que Paris va se qualifier, parce qu'Arsenal, c'est une très, très bonne équipe. Hein. C'est une très bonne équipe, on l'a vu contre le Real Madrid, surtout au match aller. Et une très, très bonne équipe. Et entre deux très bonnes équipes, en tout cas, moi, je pense que je suis pas inquiet. On va avoir des beaux matchs.
Voilà. Pour les faits importants dans ce championnat, on va quand même rappeler que ça s'est plutôt bien passé à nouveau pour les Marseillais après une période difficile, hein, puisque Marseille, après sa victoire 5-1 contre Montpellier la semaine dernière, a cartonné en battant Brest 4-1. Lille aussi, ça va mieux. Victoire à Angers 2-0 après la belle victoire face à Auxerre 3-1. Et puis, nouveau couac, hein, pour Monaco qui, après donc un 0-0 contre Strasbourg à domicile, est allé faire nul 1-1 donc, au Havre. Et puis Strasbourg, on en parlait justement. Bah, Strasbourg qui a battu Saint-Etienne 3-1. Saint-Etienne qui s'était pourtant relancé en gagnant la semaine d'avant donc le fameux derby rodanien face à Lyon 2-1. Et Lyon qui, peut à nouveau y croire malgré sa défaite. Et après cette défaite aussi contre Manchester City, en ayant écrasé ce week-end Rennes 4-1. Donc ça redonne des positions très, très serrées donc, pour les places d'honneur en championnat, puisque le PSG, on l'a dit, est champion de France avec déjà 20 points d'avance sur Marseille. Donc 78 pour Paris, deuxième Marseille 58, troisième Lille 56, quatrième Monaco 55 et 5 cinquième, trois équipes avec 54 points, Lyon, Nice et Strasbourg. Et Lyon et Nice ont même la même différence de but, avec plus 20, alors que Strasbourg a plus 13.
Voilà. Et c'est quand même tout ça, ça montre quand même qu'il n'y a que ces équipes-là, en dehors du Paris Saint-Germain, c'est bien qu'on...
Il n'y a pas de constance, il n'y a pas de régularité.
Voilà, et c'est même inquiétant, quoi, parce qu'on a beau dire le Paris Saint-Germain tue le championnat, tue le suspense et tout, bon, moi, je veux bien, quoi. Mais bon, quand tu vois quand même tout ce qui est arrivé à Lyon, entre la défaite de Lyon à Strasbourg, la défaite de Lyon dans le derby quand même contre le 17e, c'est-à-dire que tu as une équipe qui perd à 5 matchs de la fin contre le 17e de Ligue 1 et qui est quand même toujours encore très bien placée pour terminer dans le top 4. D'ailleurs, mon pronostic était, je ne sais pas s'il sera encore exactement le même aujourd'hui, je pense, ça a toujours été deuxième Marseille, troisième Monaco et quatrième Lyon.
Bon, donc, on verra ça. En tout cas,
on verra ça parce qu'il y a Lille. Il faut quand même souligner Lille. Hein.
Oui, bien sûr, mais on en a parlé, hein, qui remonte.
Mais la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment, là, sur les 5 dernières rencontres, là, la meilleure équipe de Ligue 1, c'est Lille. Hein. Lille a pris 12 points contre 11 pour Strasbourg et 10 pour Paris et 9 pour Marseille, par exemple. Mais c'est Lille. Alors moi, je suis impatient de voir Lille-Marseille la semaine prochaine.
Absolument. Donc, et puis en bas de classement, donc 13e Reims, 33 points. 14e Nantes, 32. Ça devrait être bon pour ces deux équipes-là. Attention quand même à Angers, qui est 15e avec 30 points. Et 16e, donc là, 28 points. 17e Saint-Etienne, 27 points. Donc ça va se jouer pour les barrages entre ces deux équipes. Et 18e, donc Montpellier, qui est d'ores et déjà, mais ça on le savait depuis très longtemps, mais officiellement condamné avec 16 points. On vient à la Ligue 2 avec 30
points. Oui, avec un truc quand même juste très drôle, très rapide. La saison dernière, à la même époque, rappelez-vous, c'était Saint-Etienne-Metz le barrage.
Oui.
Saint-Etienne montait en
ça
Ligue 1.
Ça pourrait être à nouveau, j'allais le dire.
On pourrait peut-être se retrouver avec exactement le même match, avec les rôles inversés.
Oui, j'allais le dire, justement, en abordant donc la 32e journée de Ligue 2, hein, deux journées de la fin. Lorient, ça y est, c'est fait. Les Lorientais retrouveront la Ligue 1 la saison prochaine. Victoire devant Caen 4-0 après un nul la semaine dernière à Annecy 0-0. Le Paris FC, c'est bien parti pour accompagner Lorient la saison prochaine en Ligue 1. 1-1 à Rodez pour le Paris FC qui avait battu la semaine dernière Bastia 1-0. Et Metz, justement, battu à Pau 2-1 après avoir concédé le nul à domicile devant Restart 2-2. Le Restart qui a aussi fait match nul ce week-end contre Clermont 1-1. Donc Lorient 68 points, deuxième Paris FC 65, troisième Metz 61. Donc on l'a dit, on pourrait retrouver un barrage Saint-Etienne-Metz. Et puis pour les pré-barrages, quatrième Guingamp 54 points. Quatrième Dunkerque, 54 points. Cinquième Guingamp, 51 points. Mais attention, Laval et Annecy sont en embuscade. 49 points pour Laval et 48 points pour Annecy. Et en bas de tableau, rien n'est joué encore. 14e Rodez, 37 points. 15e Le Restart, 36 points. 16e Martigues, 31. Ça va être quand même compliqué à deux journées de la fin. 17e Clermont, 29 points. Et 18e Caen, 21 points. Donc rien n'est joué entre Martigues et Clermont pour justement jouer les barrages.
Ouais, tout à fait. Il y a, je pense, dans ce que vous avez cité, il y a Rodez qui est
sauvé.
Ouais. À la différence de but, ils ont 6 points. Il y a deux matchs, ils ont 6 points d'avance. Et je crois qu'ils ont au moins une quinzaine de buts de différence par rapport à Martigues, par exemple. Tu vois. Oui. Donc, je pense qu'il faudra vraiment un miracle pour que Martigues reprenne ses matchs, notamment avec les adversaires qu'ils ont. Mais c'est sûr que c'est très chaud. C'est également le Red Star aussi, je pense. Ça devrait être aussi bon. Je pense que. Maintenant, on ne sait jamais. Martigues, c'est une très bonne équipe. Ils sont capables, Martigues, ils sont capables de prendre un raclé le Paris FC, mais ils sont aussi capables de battre le Paris FC. Ce qui, je pense, n'empêchera pas le Paris FC de monter quand même, parce qu'il leur restera une victoire.
Allez, National 31e journée, on est à 3 journées de la fin. Le Paris 13 Atlético, la semaine dernière, battu à domicile par Orléans 1-0, nul à Nîmes 0-0. Et puis Versailles a battu Bourg-en-Bresse 3-0 après une défaite la semaine dernière à Boulogne-sur-Mer 1-0. Donc c'est Nancy qui est largement en tête, avec 58 points devant Le Mans, deuxième 54 et troisième Boulogne. Boulogne-sur-Mer 52, ça ne devrait pas trop changer pour les trois premières places. Et en bas de tableau, donc 13e Versailles et Villefranche-en-Beaujolais 33 points, 15e le Paris 13 Atletico 30 points et 16e Nîmes et Châteauroux 28 points. Mais attention, Versailles et Villefranche-en-Beaujolais ont encore un match en plus. Hein. Ils n'ont pas joué leur match exempt, ils n'ont pas été exempt. Hein, donc attention. Ouais.
Ah, c'est la chose. Là, il n'y a que deux, y a
oui.
que,
deux qui descendent.
Il n'y ouais, a que deux descendent. Donc, oui. Mais bon, c'est un peu c'est chaud aussi. Quoi. C'est
allez, chaud aussi. Ouais. On finit avec les féminines, Stéphane. Hein. Grosse déception pour les Lyonnaises qui ne joueront pas la finale de Ligue des Champions. Hein. Lyon, qui avait pourtant gagné Arsenal 2-1 au match aller, a été battu 4-1 à domicile par Arsenal. Et finalement, j'espère que ce n'est pas un annonciateur également d'une finale chez les hommes, hein, puisque ce sera une finale en entre Barcelone et Arsenal. Barcelone largement vainqueur contre Chelsea 4-1 et qui a aussi donc gagné à Chelsea 4-1. Donc les Barcelonaises joueront contre Arsenal la finale le 24 mai prochain. Et puis pour le championnat féminin, il n'y a pas tellement de changements hein, puisque ça y est, on est à une journée de la fin. Ouais, c'est fait. Donc Lyon est allé gagner à Nantes 2-0. Le Havre et Paris Saint-Germain 2-2. Victoire du Paris FC devant Fleury 4-0. Donc ça ne changera pas. Lyon en tête 59 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain 49 points. Troisième, le Paris FC 45 points. Et quatrième, Dijon 40 points avant la finale de Coupe de France qui va se dérouler donc le week-end prochain à Calais entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC.
Voilà. Et voilà. Puis après, avant le match de play-off aussi entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC.
Il y aura encore une journée. Merci Stéphane.
Oui, il y a encore une journée avant. Ouais.
Belle semaine de Coupe d'Europe. Hein.
Puis on va se régaler. Hein. Voilà. J'espère qu'on va se régaler. Et ça va être super. Bah, bonne soirée à toutes et à tous. Hein. Et puis à la semaine prochaine.
Merci.
Bonne
puis soirée. Maintenant, merci. On enchaîne avec le journal des sports abondant de la quinzaine de Alexandre.
C'est ça, Philippe. On commence le journal des sports avec le cyclisme. On a eu trois rendez-vous pendant ces deux semaines.
Tadej Pogacar.
C'est ça. C'est le grand nom de ces deux semaines. L'Amstel Gold Race remporté par le Danois Skelmose Jensen. Pogacar a terminé deuxième et Evenepoel troisième. Deux Français dans le top 10, Louis Barré 7e et Romain Grégoire 8e. On a également le Flèche Wallonne il y a 5 jours, emporté cette fois-ci par Tadej Pogacar justement, suivi par Kevin Vauclin et Thomas Pidcock. Romain Grégoire finit cette fois-ci 7e. Et hier, on avait le traditionnel Liège-Bastogne Liège.
La doyenne,
remporté par Tadej Pogacar. Monstrueux le Slovène, suivi par l'Italien Ciccone et l'Irlandais Healy. Un seul Français dans le top 10, c'est Axel Laurence qui finit 8e. On ouvre une page sport mécanique avec les résultats des 24 heures du Mans Moto. Ça fait plaisir à nos
invités. C'était la semaine dernière.
Remporté par l'écurie Yart-Yamaha, deuxième Kawasaki Webbike et troisième ERC Endurance. En MotoGP, on parlait de Jerez en Espagne tout à l'heure. Et justement, c'est Alex Marquez qui a remporté le Grand Prix.
Le petit frère
de Marc Marquez. Fabio Quartararo, le français, a fini deuxième et Francesco Bagnaia troisième. En Formule 1, petite surprise qui n'en est pas une la semaine dernière. C'est Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, suivi par Max Verstappen et Charles Leclerc. Au classement des constructeurs, c'est très bien parti pour McLaren, qui est leader avec 188 points, Mercedes 2e, 111 points, et Red Bull 3e, 89 points. En judo, Philippe, bilan des championnats d'Europe et très bon bilan, surtout pour les filles. Roman Dico remporte pour la 5e fois l'or européen en autant de participation. Fanny Estelle pose vite, décroche le bronze, tandis qu'Audrey Chomeo et Léa Fontaine terminent à la 5e place. La France termine 2e au classement des médailles avec 3 médailles d'or, 2 d'argent et 5 de bronze. Un petit point boxe rapide, le français de 21 ans, Bakary Samake, qu'on connaît bien ici, c'est un ami de l'émission, a battu son adversaire sud-africain Roark Knapp par KO lors du 8e round vendredi soir à la Défense Arena. Il conserve grâce à cette victoire sa ceinture WBC Silver des Super Welters.
Et il avait boxé avant un concert, faut le dire.
C'est vrai, il faut le dire. En rugby, rappel des résultats de l'équipe de France du tournoi des 6 nations féminins. Victoire de la France contre l'Italie 34-21 et défaite contre l'Angleterre 43-42. Et avec cette défaite, les Français se terminent à la deuxième place du classement derrière les Anglaises. L'Irlande termine 3e, l'Italie 4e, l'Écosse 5e et le Pays de Galles 6e. En top 14, on a eu droit au derby francilien, Philippe, entre le Racing 92 et le Stade français. C'est le Racing qui l'emportait assez largement 49-24. Au classement, le Stade français est 12e, à seulement un point du RC Van dernier. Le Racing est 10e et semble bien parti pour se maintenir. Il reste seulement 4 journées de championnat. Sinon, c'est important de rappeler aussi le titre de champion d'Europe de l'équipe de France de rugby fauteuil contre le Danemark 53-49. C'est le troisième titre d'affilée pour nos Bleus. En basket, le Paris Basket jouait contre le Real Madrid en play-in d'Euroleague. Les Parisiens ont gagné 80-73. Sinon, quart de finale, le Fenerbahçe gagne pour l'instant 2-0 face aux Parisiens et Monaco gagne 2-0 contre Barcelone. En championnat, Nanterre a perdu 107-84 contre Chalon-sur-Saône et le Paris Basket, eux, avait gagné la semaine passée 197 contre Chalon-sur-Saône aussi. Au classement, les Parisiens sont 3e et les Nanterrois 13e. Je rappelle que les Parisiens n'ont pas joué en championnat ce week-end, tout simplement parce qu'il y avait la finale de la Coupe de France à Bercy contre Le Mans, finale que les Parisiens ont gagné 90-81. Chez les femmes, c'est Charleville-Mézières qui remporte la finale 70-67 contre Bourges. Handball en Ligue des Champions, on rappelle que le PSG a été éliminé contre Szeged, mais il reste encore Nantes. Les Nantais ont gagné leur quart de finale aller contre le Sporting 28-27, match retour ce mercredi. Chez les femmes, les Messines ont gagné leur double confrontation contre Brest-Bretagne et se hissent dans le carré final. Carré final composé de Odense, Esbjerg et Győr. En championnat, le PSG a gagné 30-26 contre Tremblay, Ivry a perdu contre Toulouse 29-28 et Créteil a perdu contre Chambéry 34-28. Au classement, le PSG leader 4 points devant Nantes, devant Montpellier pardon, parce que Nantes a décroché et est maintenant 3e. Ivry toujours dernier, là ça va être compliqué pour Ivry, et Créteil est 14e et lutte pour le maintien. Chez les femmes, le Paris 92 a perdu contre Chambray-Touraine 26-24, les Parisiennes sont actuellement 10e du classement. En volleyball, Levallois-Paris est qualifié en finale du championnat féminin. C'est leur victoire 3-2 contre Vendôme-Nancy samedi qui leur a permis d'accéder à la finale contre Nantes. Les Nantaises, elles, ont battu le Pays d'Aix-Venelle, première manche ce mercredi à Nantes. Et on termine ce journal des sports avec, cette fois-ci c'est officiel, je vous l'avais teasé il y a deux semaines, mais Cyril Linette est nommé directeur général des Alpes 2030.
Très bien, merci pour ce point très très complet. Merci à toutes et à tous. Hein. Merci à Léonard d'avoir été aux manettes. On laisse le témoin à nos amis de Au bout du foot. Énorme merci de cette émission en podcast et on finit en musique. Belle soirée à toutes et à tous.
Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie et le vide est grand. Les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé. J'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman, maman. J'ai trouvé l'amour. J'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant. Quand toi tu me tenais la main.